cette capacité, c'est ce courage d'affronter chacune des questions avec d'un côté une immense liberté. Il faut penser que, par exemple, un de ses articles avant Humanévité de Paul VI, il avait fait un article qui était plutôt favorable à la contraception. Ensuite, il avait repris la question et il avait valorisé tout ce que Paul VI avait voulu faire. Mais c'était parce qu'il avait cette capacité qui venait de sa formation thomiste et qu'il a toujours gardée. D'ailleurs, il avait l'œuvre de saint Thomas toujours sur sa table, bien froissée, bien utilisée, qu'il connaissait très bien. Ça lui permettait d'affronter chacune des questions, à commencer justement par l'athéisme, qui a été le grand défi de toute sa vie, avec une immense clarté. C'était quelqu'un qui, dans la tradition du cardinal Journet, qui a été son maître, qui prenait tous les problèmes avec ce souci d'arriver à la vérité. Et ça lui permettait de dire des choses qui n'étaient pas banales, qui étaient vraiment très fortes. Peut-être sa contribution la plus importante, c'est le travail qu'il a fait avec Jean-Paul II en l'an 2000 pour reconnaître les erreurs qui ont été commises au cours de l'histoire par l'Église et la demande de pardon qu'a fait Jean-Paul II, ce qui n'allait pas du tout de soi. Le cardinal Cottier m'avait dit qu'il a eu des débats très vifs avec des cardinaux italiens qui ne voulaient pas que le pape demande pardon. Et lui-même avait été responsable de cette commission qui a été chargée de préparer le jubilé de l'an 2000 et de faire tout ce travail sur la mémoire. Pourquoi est-ce que c'est si important de reconnaître les fautes qui ont été commises, à partir de là, d'arriver à une vérité plus grande. Et cela, il l'a appliqué un peu dans tous les domaines, et comme vous dites justement, c'était très vaste, ces terrains d'activité, et donc il a fait là un travail qui restera, je pense, qui restera très utile. Mais c'est aussi cette manière d'aborder les choses qui est très importante.
Donc le cardinal Cottier était pendant 15 ans théologien de la maison pontificale, c'était un peu l'homme de l'ombre, il a contribué à plusieurs encycliques d'ailleurs. Que pouvez-vous nous dire sur ce rôle qu'il a joué, ce rôle de l'ombre qu'il a joué pendant ce pontificat?
Alors il était lui-même un homme, je l'ai dit, très, très humble et très, très modeste, donc si vous lui demandez ce qu'il a fait, bon, il corrigeait effectivement ses textes en discutant d'ailleurs avec d'autres, parce qu'il devait assurer un petit peu une continuité de l'enseignement des papes. Et donc, lui-même dirait qu'il n'a rien fait. Mais en réalité, bien sûr, il a été assez présent parce qu'il était dans un grand nombre de commissions et de congrégations du Vatican. Il a été très proche des deux papes qu'il a connus, soit Jean-Paul II, soit le cardinal Ratzinger, qui est devenu le pape Benoît, parce que il participait à la réflexion très poussée que ces deux papes ont développée face à la crise de la foi qui était visible dans l'Église et qu'il a connue d'ailleurs lui-même dès sa jeunesse, parce que comme il a grandi à Genève, qui était la Rome protestante, il a dû très vite se confronter à une foi qui ne parle plus à l'homme d'aujourd'hui. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui sortait d'un monde catholique traditionnel et tout ça. Il a dû dès l'enfance se demander pourquoi on peut être croyant aujourd'hui. Et il a été, comme vous l'avez dit, très présent dans les grandes encycliques du pape Jean-Paul II, Splendor Veritatis et Fides et Ratio, qui étaient des encycliques qui essayaient d'aller jusqu'au cœur de la crise de la modernité. Pourquoi est-ce que l'homme a tellement de peine à croire aujourd'hui? Pourquoi est-ce que finalement même l'idée de vérité n'est plus aujourd'hui considérée comme étant défendable? Vous l'avez dit, on est tombé dans un relativisme assez général. On a même peur de la vérité parce qu'on l'associe très très vite au fanatisme, on l'associe à la perte de la liberté, alors qu'encore une fois, lui était vraiment convaincu de ce que dit aussi le pape Benoît, que la vérité doit s'affirmer par sa propre force. Mais pour ça, il faut travailler.
Il y a une phrase de lui que je trouve intéressante et assez symbolique. « Je ne suis pas dans l'air du temps et j'espère ne l'être jamais. » Que vous inspire cette phrase?
C'est tout à fait une phrase que j'ai entendue aussi de lui. Il se méfiait énormément des modes et aussi des modes dans l'Église, hein, parce qu'on en a, on traverse des époques où on cite un certain nombre de mots. On pourrait même penser que la miséricorde est un mot, par exemple, aujourd'hui très à la mode, mais qu'est-ce qu'on en fait? Il avait cette capacité critique de réfléchir, justement, de se demander qu'est-ce qu'on met sous les mots et dans quelle mesure on est tous contaminés dans cette travail. En tout cas, très influencés par la pensée dominante autour de nous, qui fait qu'on ne pense plus. Et donc, il avait cette liberté de ton. Et il était, par exemple, très sensible à la difficulté de la curie romaine, où il a vécu quand même très longtemps, d'être à la hauteur de sa mission. Déjà à l'époque, donc on ne parlait pas du tout de tout le travail qu'a fait le pape François maintenant, mais déjà à l'époque, il voyait la nécessité d'une réforme très profonde de l'Église. Et il le disait avec beaucoup de discrétion et tout, ce n'était pas un homme qui faisait du bruit et tout ça, mais il avait les yeux ouverts et il osait dire les choses quand c'était nécessaire. Ce n'était vraiment pas un homme d'appareil, c'était même pas, même si c'était un grand intellectuel, c'était quelqu'un, quand on parlait avec lui, ce qui n'est pas toujours le cas de ses articles qui ne sont pas d'une lecture toujours simple, mais quand on parlait avec lui, il avait cette capacité de nous faire aimer l'Église et de nous parler de Dieu qui était un cadeau pour tous ceux qui avaient la chance et qui ont eu la chance de le connaître et de le côtoyer. C'était vraiment un homme qui, en tout cas, et puis qui avait un sens de l'amitié qui m'a donné beaucoup de ce point de vue.